Ça va mieux, Jean-François Mignard, Jacques Lavergne, bonjour. Ça va mieux, l'émission où l'on commente l'actualité du monde. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Alors aujourd'hui, Jean-François Mignard et moi-même avons beaucoup de chance parce qu'on est très bien accompagnés. D'abord par Laure Ortiz, professeure de droit émérite en sciences politiques. Bonjour madame.
Bonjour.
Et par Jean-Luc Palévaudy, que vous connaissez d'ordinaire comme le coprésident de cette station Esprit Occitanie, mais qui est aussi un citoyen très intéressé par la politique et qui s'est engagé dans cette politique et qu'il manie depuis longtemps. Ça fait quelques années, Jean-Luc, que vous êtes déjà élu.
Oui, bonjour Jacques.
Bonjour. Alors aujourd'hui, tous les quatre, eh bien, nous allons explorer le thème de la démocratie, d'abord en voyant comment elle se porte dans le monde, et puis ensuite, nous essayerons de réduire la focale et de nous intéresser à la démocratie en France, sous le président Macron, et président Macron et même d'ailleurs ceux qui l'ont précédé. Et nous terminerons, comme à l'accoutumée, par les rubriques habituelles. Voilà, si ça va mieux. C'est parti, c'est sur Esprit Occitanie, la radio web. Alors, comme toujours, parce qu'il faut respecter les traditions, nous commençons par la citation. Les dictatures sont des rues à sens unique. La démocratie possède une circulation à double sens. Fermez les guillemets, je me tourne vers Laure Ortiz. Un petit blanc, pas de réponse.
Vous voulez que je commente ?
Non, mais que vous me disiez de qui c'est ?
Ah, c'est ça.
Ah, pardon, non. Ah, ben je ne sais pas. Ah,
moi, alors, je sais.
Oui.
Oui, c'est Rousseau, celui du code.
Non, pas du tout. C'est d'Alberto Moravia, en tout cas, on lui prête cette phrase, un écrivain italien, vous le savez, qui est né en 1907 et qui est mort en 1990. Des chiffres. Un chiffre, tiens, un seul. Gaza. Avant l'opération israélienne à Rafah, qui pose quand même d'énormes problèmes sur le plan humanitaire et pas que, le Programme alimentaire mondial prévient que l'ensemble des 2,3 millions de Gazaouis ont été classés en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Le Hamas qui donne les chiffres, est-ce que sont-ils vrais, sont-ils faux? Mais certainement, ils ne doivent pas être loin de l'être. On nous donne, je crois, 25-26 000 morts déjà, pendant que l'Europe et les États-Unis regardent ça sans bouger. Eh bien, voilà.
Je crains qu'ils n'aient mauvaise conscience et que ça les empêche de dormir la nuit.
Vraisemblablement. Mais bon, quand on voit les photos, quand on entend parler les médecins et les médecins français qui reviennent de là-bas, on a les cheveux qui se dressent sur la tête. Enfin, je ne dis pas ça pour Jean-François Mignard, mais au moins pour moi. Commençons par le premier sujet. Comment se porte la démocratie dans le monde? Alors, est-ce que vous connaissez l'IDEA?
Oui,
oui,
tout à fait.
Voilà,
vous parlez de l'Institut de Stockholm.
Voilà, International pour la démocratie et l'assistance électorale, qui vient dans son rapport annuel qui date de novembre dernier, qui vient de s'inquiéter sérieusement pour la sixième année consécutive, donc s'inquiète beaucoup, d'un déclin démocratique et ce, dans des proportions toujours plus considérables. Et il n'est d'ailleurs que d'observer la sémantique pour constater que la démocratie connaît des écornes sérieuses qui obligent à distinguer à ce qu'il faut bien appeler, pour aussi bizarre que ce soit, les divers degrés de démocratie. Ne parle-t-on pas à côté des démocraties dites à part entière, de démocraties imparfaites, de démocraties libérales, de régimes hybrides, et puis il y en a peut-être d'autres, mais notre professeur de sciences politiques...
Des dictatures démocratiques.
Voilà, donc...
Article 1 de la Constitution chinoise.
Voilà, il y a quand même des choses extrêmement surprenantes.
C'est exotique.
Alors, au moment où bon nombre de pays de par le monde, parce que l'année 2024 est un peu particulière, vont être appelés aux urnes, je crois qu'il y a à peu près 4,4 milliards de personnes qui doivent mettre un bulletin dans l'urne. Alors, je ne sais pas si elles le mettront ou si elles auront la liberté de le faire. La question de la démocratie et de sa qualité est essentiel. On constate un recul démocratique dans les pays où cette pratique est récente, et peut-être encore mal établie, hein, la nôtre, nous avons mis quelques siècles avant d'y arriver. On peut regarder sur le Sénégal, on en parlera certainement. Mais surtout, on en constate aussi, et ça c'est peut-être plus inquiétant, dans des pays à la tradition démocratique ancienne, et en Europe notamment. Les contre-pouvoirs naturels et traditionnels que sont la justice, les syndicats, la presse sont mis à mal. Et il en va de même pour les droits fondamentaux, tels la liberté d'expression et celle d'association. On assiste un peu partout à des montées inquiétantes d'un populisme d'essence droitière, voire même d'extrême droite. Certains sont installés dans des pays européens comme la Hongrie, où Orban sape la démocratie de façon non violente, rampante, quasiment légale, pour le plus grand bonheur des régimes autoritaires, tels par exemple la Russie et la Chine. Et que dire de l'Inde maudite, de l'Italie de Meloni, mais aussi de Trump, de Bolsonaro, de Milei, et peut-être un jour en France de Marine Le Pen. La liste s'allonge, les démocraties existent toujours, mais y a-t-il toujours autant de démocrates? On peut en douter au vu des résultats de certaines élections. Outre les pays et dirigeants déjà cités, regardez ce qui se passe en Suède, en Israël, en Finlande, en Hollande, un peu plus loin au Bangladesh par exemple. Et puis se dresse devant nous le mur d'une révolution obligée, celle que va nous imposer l'incontournable transformation écologique. Comment l'opérer? Nos hommes politiques sauront-ils vaincre pour y parvenir leur pusillanimité? Les outils démocratiques y suffiront-ils? Rien n'est moins sûr. Nous rentrons dans une ère de danger innombrable pour cette démocratie qu'il faut chaque jour réinventer. Et je vous ai fait l'économie de la corruption, de l'argent sale et des organisations mafieuses. Sur cette question, Laure Ortiz.
Oui, merci. Oui, en effet, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Reprendre.
Comme d'habitude.
Et à reprendre aussi, je crois que ça appelle quand même pas mal. Donc, l'information centrale, c'est en effet un recul un peu général de la démocratie. Et surtout, ce qui est nouveau, c'est un recul dans les sociétés les plus stables, que l'on pensait les plus stables. Alors déjà, moi, je pense qu'il faut quand même apporter un premier bémol. D'abord, on a un pays, par exemple, comme la Pologne, qui est arrivé à la démocratie un peu tard, qui va beaucoup mieux. C'est pas. Et ensuite, je voudrais corriger.
Elle va mieux parce qu'elle a élu des gens qui sont pro-démocratie, parce qu'elle a un premier ministre, Donald Tusk, qui est un homme, on va dire, entre guillemets, fréquentable, ce qui n'est pas le cas du président de la République, qui essaye de lui mettre des bâtons dans les roues.
C'est ça. Mais quand même, je voudrais dire quelque chose qui, moi, me paraît important, c'est que ce n'est pas vrai qu'on ait des démocraties vraiment anciennes, bien ancrées. Et là, ça serait quand même intéressant de refaire un peu l'histoire de la démocratie et de montrer peut-être, comme Bruno Latour disait qu'on n'a jamais été moderne, je dirais qu'on n'a jamais été démocrate. D'abord parce que la démocratie, je préfère la définir, comme le disait Marc Bloch, un paradigme pour l'action. La démocratie, elle est toujours amendable, améliorable, c'est d'une certaine façon, sous cet angle, une utopie à réaliser. Mais c'est pas ça surtout ce que je veux dire. C'est que nous venons de traditions qui sont quand même très autoritaires. Je pense que notamment en France, on en parlera peut-être quand même du fonctionnement très discutable des institutions, on a un pays qui est très marqué par le bonapartisme, par une certaine forme d'autoritarisme du chef, le gaullisme, etc. Et ça n'a jamais été véritablement un idéal, la démocratie, quand les philosophes des Lumières et sous la Révolution française ont décrit quel est le bon régime. C'est toujours un mélange de régimes, mais souvenez-vous, la démocratie, c'est quand même un régime dévoyé, en général dévoyé. Et donc la démocratie, je dirais que c'est une idée neuve et pas si ancrée, établie que cela. La deuxième chose que je voulais aussi corriger peut-être, c'est sur la... J'en perds mon idée maintenant. Mais... C'est l'importance, en effet, des reculs. Vous avez dit, je vous passe la question de la corruption. Le rapport d'IDEA, justement, met l'accent sur les modes de dégradation dans nos sociétés dites démocratiques, les plus libérales. Les modes de dégradation, c'est notamment certains droits, comme le droit de la presse, comme, et justement, la corruption, c'est un des indicateurs les plus mises en avant. Il y a une énorme alerte, et une énorme alerte, notamment pas simplement sur la corruption, mais la façon dont nos États commencent à être corrodés par le trafic, par exemple, et les narcotrafics. Et ça, on vit dans des sociétés où on a un entremêlement de l'économie légale et de l'économie illicite, une intrication qui est très problématique, et on est complètement aveugle à ce genre de phénomène. Enfin, je veux dire, quand on est aveugle, je veux dire, la société n'a pas vraiment conscience de cela.
Donc, de quoi c'est a-t-elle conscience véritablement, la société, aujourd'hui ?
Voilà, oui, on peut dire ça aussi. Mais donc, là, ce sont des questions que je considère pas comme mineures, mais tout à fait essentielles, tout à fait importantes, qui sont de vrais défis, par exemple, celle de la corruption. Alors qu'on a tendance à parler, à penser que ça concerne l'Amérique du Sud ou je ne sais quoi.
Allez, dans le sens des aiguilles d'une montre, Jean-François Mignard.
Oui, alors moi, il y a un mot qui m'a accroché l'oreille dans la brillante introduction de Jacques. C'est les contre-pouvoirs naturels. À un moment donné, vous avez parlé de contre-pouvoirs naturels, la justice ou des choses comme ça. Je me demande si une des difficultés... Alors, ça m'a accroché l'oreille parce que, puisqu'on parle du monde, je suis un lien assez fréquent, régulier, avec des gens qui vivent en Russie. Dont on peut quand même... Voilà, c'est... Pour qui, alors, voilà, et souvent, il m'arrive d'avoir une oreille qui est une oreille, entre guillemets, un peu russe, c'est-à-dire, comment quelqu'un dans un pays qui est, pour le coup, pas une démocratie, du moins, enfin, me semble-t-il, ça resterait sinon à démontrer, peuvent entendre ce genre de choses-là. Je me demande si une des difficultés que nous vivons, c'est pas le fait que nous sommes arrivés par imaginer que des choses sont naturelles alors qu'elles sont prodigieusement culturelles, et un combat qui est un combat, une construction sociale. Les contre-pouvoirs sont tout sauf naturels, me semble-t-il. Voilà, alors moi, c'est moi, mon entrée plutôt.
Exactement.
Alors que dans notre tête, hein, je veux dire, c'est tellement évident. Hein, Bourdieu, il disait ça, il disait attention, quand on dit c'est naturel, vous êtes tranquille, c'est culturel, quoi. C'est tellement culturel qu'on l'a complètement intégré. Et que je me demande si une crise de la démocratie ou d'une difficulté ou une déstabilisation, après bon, il faudra peut-être s'entendre sur les termes, ne vient pas du fait que nous avons parfaitement intégré dans nos schémas mentaux, quand je dis nous, c'est très global, mais le fait que la société s'équilibrerait naturellement par ses institutions, comme s'il n'y aurait pas besoin d'y contribuer d'une certaine manière... Et qui fait que c'est pas du tout vrai cette affaire-là. C'est un combat de tous les jours. Enfin bon, je vais pas citer là non plus, mais et je pense qu'on a une difficulté de ce point de vue-là, et qui produit des effets un peu délétères. Voilà. On a complètement intégré aussi le fait que la majorité est forcément légitime. Je vais dire une énormité. Parce qu'on est plus nombreux et qu'on est plus nombreux à voter, donc on aurait raison, et que donc la minorité n'a plus qu'à s'aligner. Moi, que je regarde sur les réseaux sociaux, qu'il y a l'amorce de quoi que ce soit qui pourrait ressembler à un débat, ce qui est rare sur les réseaux sociaux. Ça renvoie toujours à des choses du rapport, oui, mais majoritaire, minoritaire, ou des choses comme ça. Voilà. Il y a les éléments structurels de la démocratie qui nous paraissent complètement intégrés sont en train de se déliter. Et je me demande si on a, au-delà d'aller voter, aux élections organisées, c'est très bien et tout, on a encore une représentation de ce que ça pourrait être une vie politique avec des choses moins régulées que ça. Voilà.
Jean-Luc Palévaudy.
Oui, moi, là, une chose dont on n'a pas parlé encore depuis le début de l'émission, mais qui me paraît être le vecteur transversal à ce qu'on peut apporter comme analyse par rapport à la démocratie. C'est que depuis, on va dire, une dizaine d'années, nous sommes rentrés dans la révolution numérique. Et moi, je pense que s'il y a une révolution internationaliste qui s'est déroulée sous nos yeux et qui se déroule encore, c'est bien cette révolution numérique. Et qui, à contrario de ce qui peut être amené en termes d'évolution des démocraties déjà installées ou des démocraties en voie d'installation dans certains pays, eh bien, on peut et on doit, me semble-t-il, ne pas penser que forcément les choses sont complètement sous influence de cette fameuse révolution numérique que j'appelle. Pourquoi ? Parce que, eh bien, lorsque Jean-François Mignard vient de le dire, il y a un affaiblissement, une perte de repères par rapport à tout ce qu'on a pu, notre génération et des générations futures, donner comme analyse ou comme définition de la démocratie, eh bien aujourd'hui se retrouve complètement lissé dans ces phénomènes de transmission de l'information via le numérique. Et ce sera mon mot de la fin pour cette intervention, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas occulter. Parce que une nouvelle démocratie qui s'installe dans un pays, eh bien, par rapport à une démocratie déjà installée, je dirais de longue date, dans un autre pays, eh bien, aujourd'hui se retrouve exactement défini par rapport à un même niveau d'information et un même niveau de manipulation, voire de l'information. Et je donnerai un exemple qui, moi, m'a complètement déstabilisé. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis quand Biden a pris le pouvoir, avec ce qui s'est passé dans les Américains, la démocratie américaine, qui a pu permettre l'envahissement du Capitole tel qu'on a pu le voir et le connaître.
Idem d'ailleurs au Brésil, quand Bolsonaro a perdu son pouvoir. Laure Ortiz, on parle de démocratie, mais finalement on n'a pas défini le terme. Qu'est-ce que c'est une démocratie véritablement ?
Oui, mais c'est vrai, il faut définir ce qu'est la démocratie. Hein. Moi, je définis la démocratie comme la forme politique d'une société des égaux. Voilà, c'est comme ça que je la définis. Comme une société des égaux, et donc dans laquelle...
Comment vous écrivez égaux ?
Égaux, non, je l'ai... Oui, c'est vrai, ça me fait... C'est marrant, j'y pense jamais. Mais oui, c'est égaux avec AUX... Hein. Et la question est excellente, puisque l'idée, moi je rejoins totalement, du coup ça me coupe ma définition, mais j'y reviendrai. Donc pour l'instant, j'accepte la coupure. Et c'est vrai que la démocratie, je pense, Jean-François l'a très bien dit, si je dis c'est une idée neuve, c'est que je pense que c'est une idée d'une extrême fragilité. Et aujourd'hui, c'est une idée qui est décriée, précisément parce que certains disent que c'est la forme politique d'une société des égaux, E-G-O-S, c'est-à-dire une forme dans laquelle ce qui s'épanouit, c'est l'individualisme radical, et ce qui s'abîme, c'est l'idée de communauté, c'est la nation, c'est le bien commun, c'est l'intérêt commun. Donc non, pour moi c'est la forme politique d'une société des égaux, c'est-à-dire d'égalité des citoyens, et donc une société dans laquelle qui garantit les droits fondamentaux des personnes, voilà. Et donc à partir du moment où elle est définie par rapport au paradigme de l'égalité et de la liberté et de la dignité, c'est une société dans laquelle la mise en cause de la distribution officielle des droits et des ressources, eh bien, peut toujours être contestée par ceux et celles qui en sont exclus. Et donc, une forme politique dans laquelle il est garanti ce droit de contester et de contester l'ordre des choses.
Ça veut dire que
c'est une manière de répondre à Jeff, en effet, que ce n'est pas la démocratie, c'est pas du tout un gouvernement parlementaire. C'est pas du tout un gouvernement dans lequel gouverne la majorité. C'est un gouvernement dans lequel on garantit les droits, et surtout les droits des minorités, et que l'on veille, en effet, à combattre des exclusions. Donc moi, j'aime bien, on a cité des tas de... Vous avez cité très bien des définitions de la démocratie. On connaît tous celles de Churchill, mais on connaît moins dans quel discours il avait inscrit ça en 47. Hein. Il expliquait justement que la démocratie, c'est pas une souveraineté parlementaire, que ce n'est pas un système dans lequel le Parlement gouverne le peuple, mais un système dans lequel le peuple gouverne via son Parlement. Et nous, en effet, on a un fonctionnement démocratique qui dysfonctionne précisément parce que les élus ont tendance à considérer qu'ils incarnent toute la légitimité et qu'ils ont un pouvoir. Et donc, on glisse, j'ose pas dire vers une souveraineté parlementaire, parce que le Parlement est devenu tellement grouillot, aujourd'hui, on glisse vers une souveraineté présidentielle, présidentialiste. Et donc, on a en effet une démocratie qui s'abîme.
Mais vous avez, pardon, je vous coupe, Laurent Ortiz, mais vous avez des exemples d'endroits, de pays, d'époques où la démocratie a fonctionné, comme vous venez de nous la décrire ?
Alors, une époque, un âge d'or ou non, je ne crois pas qu'il y ait d'âge d'or de la démocratie.
Non.
Bon, voilà, des périodes dans lesquelles la démocratie a fonctionné.
Le fait que vous ayez besoin de réfléchir.
Non, mais le fait qu'on ait besoin de réfléchir, oui, en effet, hein, en France, on a vraiment du mal à réfléchir. Bon, on a une démocratie, en effet, beaucoup plus directe en Suisse, qui fonctionne. Bon, pour moi, c'est pas forcément un idéal de la démocratie, mais bon, une démocratie, je peux pas vous, elle n'a, pour moi, le système n'a jamais existé. C'est pour ça que je dis, la démocratie est une utopie. Donc, c'est un paradigme pour l'action.
On tend vers la démocratie.
On tend, enfin non, on est, oui, mais pas de façon naturelle.
Comme l'infini tend vers le zéro.
Non, parce que c'est pas inscrit, il n'y a pas une loi historique qui fait qu'on dirait vers la démocratie, vers un éternel progrès. Là aussi, je suis d'accord avec ce que vous avez dit précédemment. Beaucoup de gens pensent, par exemple, que l'arrivée du Rassemblement National,
c'est la même chose.
Ne changera rien. Parce que les institutions sont solides, qu'elles sont arrimées, et que pas plus que Meloni n'arrive à renverser le système italien, finalement, Marine Le Pen ne bouleversera. Et je ne crois pas.
C'est ce qu'on a dit aux USA quand Trump est arrivé. Les institutions tiendront, il ne fera pas ce qu'il veut.
Et
il l'a un peu fait quand même.
Il a quand même fait pas mal de choses de ce qu'il voulait.
Bien sûr. Et donc, moi, je ne crois pas ni à cette solidité des institutions, ni à l'inéluctabilité d'un progrès vers la démocratie. Pas du tout. Je pense que l'on peut sacrément dégringoler et tomber vraiment bas. Il n'y a qu'à voir, de toute façon, comment fonctionne notre droit, l'érosion, quand même, des droits et des libertés. Il n'y a pas de quoi se réjouir. Hein. On a beau ne pas panthéoniser, d'ailleurs, l'ami Badinter, on a dit qu'on n'en parlerait pas, mais on va en parler. Et bien, justement, il y a quand même une dégradation de l'état de droit, une dégradation de l'état de droit, même, je dirais, qui s'est manifestée à travers la loi sur l'immigration. Et donc, aujourd'hui, avec ce qu'on annonce sur Mayotte et qui remettra peut-être en cause le droit du sol au niveau de l'ensemble de la métropole, on voit bien qu'il peut y avoir des régressions dans les droits et une régression du droit. Pour moi, c'est un déclin démocratique.
Est-ce que la taille d'un pays ramenée à sa population, est-ce que plus on est nombreux, moins c'est facile d'avoir une démocratie? Vous nous avez cité la Suisse. Alors, on a vu qu'en Suisse, ils sont quand même pas très nombreux. Ils arrivent un peu à se parler. Ils arrivent à faire des référendums dans des conditions. Tout ça est très encadré. Si on va en Chine, par exemple, c'est pas du tout le même problème. Est-ce que la taille, l'immensité d'une population comme la population chinoise, c'est une autocratie, comme l'Inde avec Modi, c'est pareil. Est-ce que plus le pays est grand, plus il est peuplé, moins il y a de démocratie?
Non, je ne le crois pas du tout. Et je ne pense pas que l'autoritarisme soit une conséquence de la taille et du nombre de la population. La question serait à voir aussi, on peut avoir de très grands pays avec des formes de décentralisation authentique, de régionalisation authentique,
par exemple,
des formes de démocratie
L'Allemagne,
locale.
Par exemple.
Oui, l'Allemagne et ses Länder.
Oui,
qui ont des
pouvoirs. Là, si je peux me permettre, le temps que Laurent reprenne sa voix. C'est un vieux problème pour les Français, ça. Or, je suis pas un historien, mais en 1789, c'est quand même quelque chose qui a vu s'affronter un certain nombre de gens sur la conception de la société. Entre Rousseau, Condorcet, c'est qu'est-ce qui garantit, c'est la question de la démocratie délégative, qu'est-ce qui garantit le fait qu'on puisse travailler sur l'intérêt général, la question des droits et tout, à un niveau qui est un niveau qui n'engage pas uniquement les personnes directement intéressées. Parce que ça c'est pas le plus, enfin, c'est pas le plus compliqué. Pour avoir eu quelques expériences de pratique de démocratie directe, c'est très très compliqué même déjà à ce niveau-là, pour des tas d'autres raisons. Mais c'est quand même une vieille question qui a été tranchée en 1789, dans un sens qui était un sens pour le coup parfaitement jacobin, sur le coup. Hein, cette question-là... Alors, je ne veux pas faire de syncrétisme, mais il me semble que qui est une question, me semble, d'emblée, sur comment on pratique le débat, pour le dire comme ça. Parce que moi, je pense que la démocratie, moi, je suis plutôt sur la définition de l'effort, c'est un cadre vide dans lequel ce qui est important, c'est qu'on débatte justement quelque chose de pas donné substantiellement d'entrée, voilà, et tout ça.
C'est un combat permanent, la démocratie, entre les acteurs de la démocratie.
Oui, moi je pense, oui. Alors c'est pour ça que tout à l'heure je disais c'était le naturel qui m'avait fait accrocher l'oreille, c'est parce que je pense que c'est encore une fois un combat de tous les jours. Et c'est d'ailleurs ça qui peut être d'une certaine manière, je veux dire, c'est fatigant. Je pense que c'est fatigant et que c'est usant, la démocratie, en même temps que c'est exaltant, c'est-à-dire que les droits ne sont jamais acquis, si c'est effectivement quelque chose de l'ordre d'une pratique entre égaux. Un gouvernement d'égo, ça veut dire que on peut pas tranquillement s'installer en se disant où je vais déléguer ça clé en main à quelqu'un. D'une manière ou d'une autre, il me semble qu'une société dans laquelle on perd des lieux qui sont des lieux de démocratie, de pratique de la démocratie, sont des sociétés qui sont des sociétés qui s'épuisent de ce point de vue-là. Moi, je suis enseignant, par exemple, à ma toute petite échelle, j'ai jamais cru qu'on pouvait apprendre la démocratie à des gamins sans la pratiquer. Mais je pense que c'est valable pour des adultes. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui s'inculquerait comme ça. Alors, on va parler de la France et de l'éducation nationale dans un moment, voilà, qui s'inculquerait si ça se pratique pas, parce que c'est un exercice qui est chaque fois réinventé. Moi, dans les quelques espaces de pratique démocratique que j'ai connus, je me suis rarement ennuyé. Parce que chaque fois c'est nouveau. Parce que chaque fois, c'est de la confrontation, c'est de la tension, c'est du rapport de force régulé, voilà.
Pour débattre, il faut accepter de débattre, c'est-à-dire que déjà, il faut connaître un peu les problèmes, il faut réfléchir, il faut se positionner. Quand on voit l'absentéisme qu'il y a dans nos élections, où qu'elles soient d'ailleurs, dans le monde, on en est loin quand même de tout ça.
L'absentéisme n'est pas forcément le symptôme de ce que les gens se moquent totalement de la chose publique.
Non, ça veut dire que la façon dont elle est traitée et leur voix au chapitre, si je puis dire, n'est pas entendue. Et ils n'y adhèrent pas, mais comme ils ne peuvent pas se faire entendre, ils préfèrent s'abstenir.
Bien sûr.
Les pieds, oui.
Mais alors, donc ça veut dire que c'est un vice de la démocratie.
Mais non, mais ce n'est pas la démocratie qui est viciée. Je pense que c'est le système représentatif qui est vicié. Et que c'est la pratique des institutions que nous avons qui est viciée. Parce que personnellement, je n'adhère pas aux philosophies anarchistes selon laquelle il n'y a d'authentique démocratie que directe. Je crois pas, parce qu'on est foutu. Si on dit qu'il n'y a de démocratie authentique que directe et immédiate, alors en effet, on n'a plus qu'à se recroqueviller dans des petites communautés. Donc c'est pas possible. On est en effet un grand pays. Je pense qu'il faut peut-être, en effet, passer par un système représentatif. Le problème aujourd'hui, c'est que ce système représentatif, il fonctionne même pas. On a un Parlement qui est qui est réduit à la portion congrue dans son rôle. Donc, c'est de plus en plus un fonctionnement néo-monarchique que l'on a. Donc, on a déjà pas de système de représentativité satisfaisante du Parlement, parce que on a voulu instaurer un système majoritaire au nom de la gouvernabilité. Ça n'empêche pas aujourd'hui le RN de devenir d'ailleurs le premier parti d'opposition. Donc on a une mauvaise représentativité, on a des délégués qui ont de moins en moins de pouvoir, Et on a une décentralisation qui fonctionne pas véritablement, avec des collectivités locales qui sont de simples rouages administratifs de l'État, et on a une démocratie participative qui est bidon et qui est la portion congrue. Donc, pour moi, ce n'est pas, c'est pas la démocratie qui dysfonctionne. Ce sont les institutions françaises que l'on a, que ce soit le régime représentatif et l'incapacité de mettre en place des correctifs.
Jean-Luc Palévody.
Oui, pour rester sur le registre international, avant de revenir effectivement sur l'analyse qu'on peut faire de notre démocratie française, moi, j'ai quand même tendance à penser que la démocratie française, par rapport à ce qu'on voit au niveau de l'ensemble de la planète, est certainement pas la meilleure des démocraties, mais elle a le mérite de pouvoir être quand même une démocratie qui, avec ses dérives, avec éventuellement son effondrement s'il devait survenir, reste quand même une démocratie solide et peut-être une référence en termes démocratiques. La seule question, moi, qui me paraît être aussi importante, c'est une vraie question, c'est quels sont les facteurs influents de l'affaiblissement, de l'avènement de la démocratie sur la planète. Et quand on était avec des, soi-disant, des nations qui étaient reconnues comme étant démocratiques, eh bien, des reculs importants qui peuvent être opérés. Eh bien, je pense que un des drames de la planète, sûrement, c'est qu'en fait, on n'a pas de système alternatif. Le système qui prévaut, c'est le système capitaliste. Mmh. Et donc, à partir du moment où on a un système qui est basé sur l'argent, sur la valeur marchande, sur tout ce qu'implique, eh bien, ces sociétés économiques, ajoutées à mon propos de tout à l'heure, la révolution numérique, qui, de ce point de vue-là, a encore accentué, je dirais, la dépendance des pays, des États, des citoyennes, de ces États par rapport à la valeur de l'argent, eh bien, on ne peut que constater les dégâts collatéraux qu'on peut avoir dans ce que pourrait être la bonne définition de la démocratie. Et donc, en tous les cas, de ce siècle et du siècle passé, il y a eu une expérience communisante, on va dire, communiste, internationaliste, et notamment avec un philosophe qui a peut-être, qui aurait peut-être pu amener une contre-idée de ce que pouvait être l'alternative au capitalisme. Bon, on a vu ce que ça a donné à travers la récupération politique des soviétiques et donc de l'avènement du monde communiste tel qu'on l'a connu. Donc tout ça pour dire que c'est quand même un des problèmes, c'est pour rester dans ce registre international, c'est que aujourd'hui le capitalisme est en train d'accélérer le processus de destruction des démocraties dans de nombreux pays.
Oui, Jean-François.
Oui, juste par rapport à ce que dit Claude, c'est pas. Il y a un vieux débat qui traîne quand même dans les placards comme ça, qu'il faut peut-être faire la peau, ou du moins il faut trancher. Ce serait le fait de dire, il y a une équation entre capitalisme et démocratie d'un côté, et une équation entre socialisme et dictature de l'autre. En gros. Mais je suis pas sûr de pas approcher des représentations très très communes et très partagées qui seraient de dire, et on nous le sert régulièrement, la démocratie c'est la forme politique du capitalisme, hein, alors que la dictature c'est la forme achevée de l'appropriation des moyens de production socialisés, c'est-à-dire le socialisme ou le communisme. Voilà.
Est-ce que c'est pas un peu réducteur, un peu
schématique ? Non, mais c'est ça qu'on nous sert quand même assez régulièrement. En fait, je veux dire, une anecdote, même ici, quand on a débattu à des moments donnés avec entre nous, les uns et les autres, il y a eu des moments dans lesquels, en gros, on a dit, voilà, moi, je suis du côté de la démocratie et de la démocratie occidentale. Donc, les États-Unis sont le fleuron. Là, Je pense au débat à un moment donné qu'on a eu autour de la question de l'agression de nos amis russes vis-à-vis des Ukrainiens en disant le campisme là. Il faut choisir son camp. Est-ce qu'on est du côté de la démocratie et donc du capitalisme? Parce qu'en face, hein, de toute façon, hein, Poutine, ce n'est qu'un soviétique repeint. Mais en gros, c'est la dictature qui est liée à la question qui est la question du. Alors, je veux dire, soit on considère que ça c'est vrai, et c'est quelque chose qui est, de mon point de vue, dominant dans les représentations collectives, et la question est réglée. Et à ce moment-là, effectivement, la question est réglée. Il faut vraiment, vous avez raison, Jacques, il faut aller s'installer loin à la campagne et élever des dindons, parce que de toute façon, la cause est entendue. Ou alors, la ligne de partage est ailleurs. C'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus contraignant intellectuellement de regarder les choses autrement. Autrement dit, voilà, il n'y a pas d'alternative au capitalisme. Moi, je ne suis pas sûr. Et pour autant, ce dont je suis à peu près sûr, c'est que de toute façon, même s'il y a une alternative au capitalisme, on ne tuera pas la démocratie. Parce que le capitalisme n'égale pas la démocratie. Voilà.
Laure Ortiz.
Oui, bah en effet, je trouve d'ailleurs que Jean-François a raison sur le fait que cette équation, elle marchait beaucoup avant. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, elle marche de moins en moins. Parce qu'on en est arrivé à distinguer. Bon, par exemple, ça, elle marche plus parce que je pense à la Chine. Et quand Jean-Luc parlait, je pensais à la Chine. Mmh. Capitalisme d'État pour moi. Hein, et il n'y a pas du tout de démocratie là-dedans. Enfin, s'ils se définissent comme démocratiques, je l'ai dit, c'est la même article 1.
Au sens de république démocratique.
Article 1 de la constitution chinoise. Mais bon, en tout cas, c'est pas une démocratie libérale avec, libérale au sens politique du terme. Et donc, on a, des sociétés très autoritaires de capitalisme d'État, comme la Chine. Et en même temps, nous avons des économies de marché bien libérales au sens économique du terme qui fonctionnent comme des démocraties illibérales. Parce que ce qui est dingue, c'est l'apparition de ce mot maintenant. Démocratie illibérale. Pour moi, c'est un non-sens absolu. Si la démocratie est une organisation, un système politique qui garantit les libertés individuelles et les droits et collectifs et les droits fondamentaux de la personne, mais qu'est-ce que ça veut dire une démocratie? Mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qu'est une démocratie illibérale?
Orban peut-être, il peut l'expliquer.
Mais non, parce que Macron l'utilise ce oui. Langage.
Ah, alors, si Macron l'utilise, hein, voilà. quelle référence.
Mais
quelle
non, référence. Mais oui, mais rigoler. Et faut, donc, il faut. Je pense en effet que on considère ça comme naturel de parler de démocratie libérale, alors que c'est un contresens absolu. Bon. Ça démontre bien, en effet, qu'il y a un découplage entre démocratie et économie de marché, système capitaliste. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à penser que la démocratie, c'est la recherche d'une antidote sociale au système capitaliste. Enfin, aux dégâts que produit un système capitaliste. Et bon, il y a une tragédie aussi, peut-être qu'on l'abordera, je ne sais pas, mais c'est l'État. Parce que pour moi, il y a aussi un antagonisme fondamental, finalement, entre l'État, qui est le bras armé du système capitaliste, et la société, son aspiration à l'ensemble des citoyens, leur aspiration à une liberté, une égalité, une dignité. Voilà. Et vous arrêtez pas de parler du numérique. Justement, moi aussi, j'y pense beaucoup à ce qu'est un État. C'est-à-dire, c'est une énorme machine de contrôle, de surveillance, de... et donc, moi, je pense qu'il y a, dans les formes aujourd'hui de la gouvernance, accélérées par la technologie, la mise en scène d'intérêts qui sont de plus en plus contradictoires entre nos libertés et le fonctionnement de l'État. Et voilà. Et ça, à gauche, ça pose énormément de problèmes parce qu'on est fondamentalement très étatiste à gauche. Or, voilà, c'est. Je pense qu'aujourd'hui, réactiver la démocratie, s'investir dans le combat pour la démocratie, c'est redimensionner notre rapport à l'État.
Ça voudrait dire que, en fait, malgré ce qu'on peut pouvoir penser à des moments dans la gauche, l'État n'est pas forcément la garantie de la démocratie, quoi. Ça peut être même autre chose.
Il devrait l'être. Voilà. Il devrait l'être. Et oui. Même la garantie, je veux dire, de nous, de nos intérêts, des petits, voilà, un garant de la justice sociale, une manière de rééquilibrer la puissance du capital, des GAFA, de tout. Bon, voilà, le fait de pas être broyé, mais en même temps, ça fonctionne que sous la pression. Sous la pression des luttes sociales. Parce que sinon, et surtout aujourd'hui, dans un monde globalisé où, soi-disant, on entre en concurrence, il faut pas vraiment embêter les capitaux, sinon ils se barrent ailleurs. Bon, on s'aperçoit que l'État, il réalise de moins en moins ce rôle de protection, mais il...
Et ça ruisselle peu, voilà. Quoi.
Ça ruisselle pas peu. Des masses.
Alors moi, j'aimerais vous... Pardon, Jean-Luc, un mot, mais... peut-être.
Oui, juste, je voudrais rajouter un point par rapport à la notion de l'État telle que Laure vient de le définir, très justement d'ailleurs, c'est l'État et c'est la nation. Est-ce que aujourd'hui les États-nations, et notamment dans la vieille Europe, sont justement un garant de certaines formes de démocratie encore respectables. Parce qu'en face, il y a quoi ? En face, il y a, Laure l'a cité, la Chine. Il y a, on peut quand même le dire aujourd'hui, la Russie. Il y a, de mon point de vue. Oui, oui. Et donc, il y a les États-Unis. Donc, il y a des blocs en face. C'est pas des États dans le sens des États-nations. Il y a des blocs. Et nous, aujourd'hui, on est confrontés, que ce soit sur le plan local, donc franco-français, et que ce soit sur un plan un peu plus large, notamment par rapport aux problématiques qu'on a, à comment gérer la guerre Russie-Ukraine, comment être efficace par rapport à ce qui se passe entre les Israéliens et le Hamas. Finalement, on est translucide. On est translucide en tant qu'État-nation, et on n'est pas plus costaud en tant qu'Europe économique, puisque l'Europe politique est inexistante par rapport à ça. Donc, il y a un des éléments aussi, peut-être on abordera tout à l'heure par rapport à la question plus française, c'est quoi l'avenir de la démocratie ? Est-ce que c'est de perpétuer l'État-nation et de le faire évoluer éventuellement dans le bon sens, ou est-ce que effectivement l'État-nation peut être un frein à la réelle capacité de pouvoir être des peuples libres, responsables et instruits, culturellement aboutis, avec une justice qui puisse garantir les droits les plus élémentaires. C'est là aussi, à mon avis, une question qu'on doit se poser.
Moi, je voudrais vous entendre sur un point. On est arrivé aujourd'hui dans l'état de la planète qui est de plus en plus préoccupant. La question devient tout à fait existentielle pour l'Homo sapiens. On sait qu'on a peu de temps si on veut inverser une tendance. Il va falloir donc prendre des mesures. Ça commence à être pris. Elles sont très partielles. On n'a pas vraiment commencé encore à se préoccuper du problème. Pour autant, il y a des levées de boucliers un peu partout. Comment la démocratie va pouvoir vivre ce changement de société qui est absolument aujourd'hui incontournable? Il va falloir vivre autrement. Il va falloir se positionner différemment par rapport au monde. Est-ce que la démocratie va supporter cette révolution incontournable ? Laure Ortiz.
Oui, je suis contente que vous posiez la question, parce que quand on parlait de fragilité de l'idée démocratique, en effet, je pense qu'un des... Un des sujets sur lesquels on met souvent en avant le fait que la démocratie est un mauvais système, où on commence à douter que ce soit un bon système, c'est justement à propos de l'écologie. que ce soit les écologistes qui disent pour changer véritablement le système et se mettre au diapason des grands défis du changement climatique, on peut plus attendre que les masses soient d'accord. Il va falloir imposer tout ça d'une façon autoritaire. Vous avez tout un courant de l'écologie qui défend une approche autoritaire de la résolution du problème. Et moi je ne sais pas quoi vous dire. C'est totalement. Enfin, ça me paraît pas du tout enviable, pas du tout nécessaire. Voilà. Mais en effet, c'est un des. C'est sur le terrain de l'efficacité que l'on réduit l'exigence démocratique et que certains remettent en question. Mais regardez sur les épidémies, on a fait exactement pareil. On a entendu au début de la lutte contre le Covid qu'à un moment donné, on a cru que la Chine, finalement, était beaucoup plus performante puisqu'elle arrivait à bloquer je ne sais pas combien de millions d'individus. Et donc, il y avait efficacité comparée des démocraties et des États totalitaires. Eh ben, c'est plus efficace un État totalitaire. Moi, j'ai envie de vous dire que si l'alternative, c'est le totalitarisme, je préfère encore crever en tant que sapiens.
Quoi, ce risque d'arriver, Jean-Luc,
quoi qu'il en soit.
Jean-Luc.
Oui, c'est effectivement un vrai sujet. Mais je suis pas sûr que les démocraties, et la nôtre en particulier, puissent être, je dirais, le vecteur de la prise de conscience éventuelle face à ce qui attend l'homo sapiens du 21e ou 22e siècle, on dira. Je pense que le problème qu'on a avec la lutte contre le réchauffement climatique, les problèmes environnementaux, ben c'est justement la problématique politique. Parce que quand même, moi je rejoins un peu l'or. Si je dois vivre avec des Khmers verts, ben je me demande pourquoi je vais vivre sur cette planète. Me rendre anxiogène par rapport à l'avenir de mes futurs arrière petits-enfants, je dirais que je pense pas que c'est comme ça que je vais réussir à faire prendre conscience de ce qu'il faut faire. Moi je pense que ça c'est un des vrais sujets, c'est que par rapport à la problématique environnementale qui est effectivement posée pour l'ensemble de la planète avec ce que ça suppose de grands changements, et ces grands changements ils vont intervenir où ? Ils vont intervenir sur le plan économique, des pays qui vont s'effondrer éventuellement économiquement par rapport à des manques de ressources, notamment la ressource en eau, ressources au niveau de la nourriture, des cultures. Mais je dirais que ce que va amener cette capacité à rendre les citoyens de ce monde anxieux et dans une anxiété permanente, eh bien c'est l'antithèse de la capacité justement que des régimes démocratiques pourraient permettre de pouvoir trouver des solutions. Et pour moi, et je terminerai là-dessus, c'est que deux solutions à aujourd'hui, il y a ce que nous renvoie l'homo sapiens depuis qu'il est sur cette terre, il s'est adapté. Et si aujourd'hui on nous dit que de toute façon c'est foutu, parce que même si on faisait quelque chose maintenant, ben c'est trop tard. Eh bien, et qu'on ne pense pas qu'est-ce qui pourrait être fait pour effectivement avancer dans ce processus de prise de conscience pour combattre ce qui peut être combattu en termes, je dirais, de dégradation de cette planète. Eh bien, il faut aussi croire et donner à penser et donner à débattre de ce qu'il faudrait faire pour s'adapter, pour adapter nos sociétés, pour faire en sorte que du plus pauvre au plus riche, mais surtout je pense au plus pauvre, eh bien, ils puissent continuer à se dire que ils ont quand même une petite chance de mieux vivre dans l'époque où ils sont.
Il va falloir débattre vite, alors. Jean-François, brièvement, un mot
de... brièvement, oui. Cette question, le rapport entre le combat, la lutte, l'écologie et la démocratie, on a sous le nez des événements qui sont des événements qui montrent qu'elle est liée. Moi, je fréquente de loin, je suis pas du tout mouillé là-dedans, mais il se trouve que j'ai quelques connaissances de ce qui se joue autour des mouvements écologiques sur le terrain, on va le dire comme ça, un peu partout. Les ZAD, la 69 dans notre région, Sainte-Soline, etc.
Les
etc.
bassines. Voilà, je vous renvoie à l'émission Arcagna que j'ai faite avec des spécialistes.
Si on veut bien aller y voir au-delà de ce qu'a raconté CNews ou LCI, qu'on discute avec les gens qui sont là-bas, je ne mythifie pas sur ce qu'ils sont en train de faire. J'observe juste qu'ils posent en même temps la question de la démocratie et la question de l'écologie. Mmh. Hein, et que cette question-là est une question qui se pose dans des cadres de combats sociaux, je ne sais pas comment les appeler, les ZAD, les choses comme ça. Les fameuses utopies concrètes dont on parlait avec Geneviève Azam l'autre jour, dans l'émission là, dans lequel en gros il se disait ce qui se joue, c'est à la fois des enjeux qui sont des enjeux à long terme sur l'avenir de la planète, mais au quotidien sur comment on prend une décision, qui prend une décision, etc., etc. Moi, j'ai fait partie de la commission d'enquête qui a travaillé sur la question qui est la question de la mort de Rémi Fraisse à Sivens il y a de ça quelques années, avec la Ligue des droits de l'homme. Quand on a travaillé là-dessus et qu'on a auditionné les gens, ils nous parlaient de deux choses. Ils nous parlaient d'écologie et ils nous parlaient de démocratie. Au sens de, on va m'imposer à moi et à mes enfants et aux gens qui décident pour qui. Qui décide pour qui, au nom de quoi, de quelle légitimité, etc., etc. Et je me dis, il y a peut-être à aller regarder de ce point de vue-là pour essayer un petit peu d'y réfléchir et d'avancer, quoi.
Oui, qu'il n'y a pas forcément de contradiction. Et je trouve que justement, c'est dans la question écologique, on voit bien se nouer trois dimensions. La question de la démocratie.
Voilà, et notamment de la décision partagée.
Oui, voilà. Et la question de la justice sociale aussi,
ouais.
Et qui est de plus en plus liée à la question de l'écologie. Et là, la jonction de ces trois, on l'a vu fonctionner par exemple aussi avec la paysanne, il l'a sur...
Complètement.
Je pense que la solution, elle suppose d'articuler plusieurs échelles du politique, parce que je ne perds pas de vue... Ce qu'a dit Jean-Luc sur la question que vous avez posée sur l'Europe, je pense qu'en effet l'État-nation est une bien trop petite échelle pour répondre à des enjeux qui sont économiques. Et je vois comment, par exemple, c'est une discussion qu'on a eue à la Ligue des droits de l'homme, mais on observe, y compris dans notre droit, une régression des droits fondamentaux que l'on peut dater du milieu des années 80. Comme par hasard, ça coïncide avec la dérégulation, la financiarisation de l'économie, etc. Et là, franchement, je pense qu'il n'y a pas de solution à l'échelle de l'État-nation et qu'il serait peut-être temps, en effet, qu'on soit plus exigeant dans la construction européenne, qu'on soit plus osé dans la construction européenne. Et en même temps, pour ce qui est de redonner du sens à la démocratie, je pense qu'il faut réinventer, se doter d'une véritable décentralisation et refonder politiquement le local, pour moi. Voilà. C'est dans le glocal, qu'on dit, qu'est la solution. Et c'est dans ces diverses échelles du politique qu'on peut arriver à tricoter une autre manière de gouverner.
Voilà, ben je pense que sur cette question, ça pourrait être le mot de la fin, puisque le temps passe à une grande vitesse. Une heure ne fait que combien déjà? 60 minutes, c'est ça?
Oui.
Pas loin. Alors, on n'a pas parlé spécifiquement de la France. On aurait pu se poser la question de savoir si certains partis, notamment ce que représentent M. Marleix et M. Ciotti, qui contestent, qui accusent le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, qu'ils sont d'empêcheurs de tourner en rond. On aurait pu beaucoup débattre là-dessus. On le fera. Mais peut-être sur une autre émission, si Laure Ortiz veut bien revenir nous voir, maintenant qu'elle a trouvé le chemin de la station. Je vous propose de passer à nos dernières rubriques, à commencer par les brèves. Alors moi, je vais les ouvrir, ces brèves, en donnant un coup de chapeau finalement à des magistrats, hein, on les critique beaucoup. Parlons du PNF, le parquet national financier. Il n'existe que depuis 10 ans, il a quand même bien travaillé parce qu'il a fait rentrer 12 milliards d'euros dans les caisses de l'État, c'est quand même pas rien.
Sur ça de prix.
Oui, voilà, notamment grâce à des amendes colossales infligées aux entreprises. Alors vous savez, cette institution est née après l'affaire Cahuzac, je ne vais pas vous dire ce qu'elle était. Elle a été beaucoup critiquée, notamment par les hommes politiques de droite. Tiens, c'est curieux, pourquoi ? On pourrait se poser la question. Elle a été aussi en but, il a été en but aux attaques de son ministre, Dupond-Moretti. Sachez qu'ils ne sont que 20 magistrats, 20 procureurs, ce qui est assez dérisoire, s'appuyant sur un bras armé, c'est l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, malheureusement très sous-équipé en matière de personnel. Et le PNF également a une autre arme perfectionnée au cours des années, c'est une arme procédurale importée des États-Unis, la justice négociée ou le plaidé coupable. Donc rendons hommage à ces magistrats qui, en petit nombre, avec des moyens relativement limités, font un sacré boulot. Jean-François ?
Oui, une brève. Le 2 et le 3 avril aura lieu un procès qui est le procès des artisans de la paix au Pays Basque. Les deux personnes qui ont été arrêtées, puis remises à liberté, vous savez, c'était il y a de ça quelques mois, tous ces gens qui se sont battus pour que, d'une part, le TA désarme, pour que ces armes soient neutralisées, et pour que les Basques arrêtent de se battre et de s'entretuer pour fabriquer un avenir qui est un avenir commun. Le parquet antiterroriste continue à poursuivre ces gens-là et il va y avoir leur procès. Ils ne sont plus que deux, les autres sont morts. Hein, ils étaient un petit groupe de 6 ou 7 personnes. C'est le 2 et le 3 avril que ça se passe à Paris, ce procès-là. Et c'est l'avenir du Pays Basque quand même qui s'y joue. Je pense qu'il y a... C'est une brève qui pèse un petit peu. Si vous voulez peser aussi un petit peu, n'hésitez pas, il y a une pétition de soutien à ces deux personnes-là, de manière à ce qu'elles soient acquittées, enfin relaxées, et qu'enfin on puisse fabriquer un Pays Basque qui soit un Pays Basque apaisé, il en a besoin.
Vous avez quelque chose à rajouter ? Alors peut-être vous n'étiez pas trop prévenu de,
non,
du contenu
pas du tout prévenu,
de nos rubriques de fin d'émission.
Qu'est-ce qu'il y a des trucs qui bien et ça marche ? Eh bien oui, moi j'ai un truc qui m'a traversé l'esprit.
Alors,
de choses que je trouve
un,
bien.
Un ça va mieux donc.
C'est un, ah oui.
Ce serait dans, dans la catégorie des ça va mieux. Moi je vous dis tout de suite, je n'en ai pas, je ne vois rien qui aille bien, mais peut-être que il va falloir que je change mes lunettes.
Bon alors je peux le dire.
Laurent Pisse, oui, dites.
Voilà, dans le ça va mieux. Julie Gaudrèche, le MeToo qui continue, malgré ce que j'ai cru être un backlash, comme on disait, hein, un retour en arrière sauvage avec Monsieur Macron, président de la République, témoignant en fait son empathie pour
Monsieur Depardieu.
Patrick Depardieu, mais là, Gérard Depardieu, mais on croit rêver. Et je me suis dit, mais ça y est, c'est le boomerang que les féministes, nous allons nous prendre dans la gueule avec l'IVG qui recule aux États-Unis. J'ai cru que tout allait s'effondrer. Et non, il y a quand même des voix qui continuent à se manifester et c'est très bien. Voilà.
Ce qu'il y a de bien avec le président Macron, c'est qu'on nous a dit, vous avez élu un président très jeune et il fonctionne comme un vieux.
On est rarement déçu de ce point de vue-là.
Absolument. Jean-Luc Palévaudy.
Oui, non, je n'avais pas non plus préparé quoi que ce soit, mais bon, j'ai quand même trouvé un petit ça va mieux d'actualité, puisqu'il date de ce jour. Et je vais raviver la flamme féministe de Laure. Il semblerait que le Sénat n'oppose pas son veto pour que l'IVG puisse rentrer dans la Constitution française. Et ce qu'il voudrait dire, parce qu'on aurait pu penser que le Sénat aurait peut-être été un frein à l'heure actuelle, mais si d'aventure l'IVG pouvait rentrer dans la Constitution française, voilà un des points qui fera pas désordre dans ce que peut être un ressenti démocratique par rapport à cette question, et pour la cause des femmes, mais aussi pour la cause de la santé publique.
Est-ce que je peux dire quelque chose ? Merci Jean-Luc.
Oui, moi je vais dire d'abord, et après je vous passe la parole, que M. Macron, qu'il faut toujours écouter, a dit croiser, multiplier, ça peut en résumer à peu près ce qu'il dit.
Réarmons-nous.
Voilà, c'est ça. Réarmons, nous me servions même l'or.
Le réarmement démographique, j'avoue que ça m'a fait un peu peur. Je me suis demandé qu'est-ce qui nous attendait, nous les femmes. Enfin, bon, moi j'ai un peu passé l'âge, mais enfin. Bon.
Ah, en Italie, vous savez, on vous ferait faire des triplés.
Ah oui, voilà. Alors, quand même, si. Jean-Luc, il va falloir se méfier de la façon dont est libellé la fameuse, le fameux projet de loi, parce que une chose est de reconnaître le droit à l'avortement, à l'IVG, autre chose est de dire simplement que l'IVG est placé sous l'empire de la loi. Ce dont moi, personnellement, je me contrefiche qu'on me dise que c'est dans la compétence du législateur. Ce que je veux, c'est qu'on fixe des limites au législateur et qu'on me garantisse le droit à l'IVG. Or, le Sénat, c'est justement la phrase qu'il ne veut pas, le droit à l'IVG. Il veut simplement que l'IVG soit, dans le cadre de l'article 34, dans la liste des compétences du législateur.
Allez, Jean-François,
j'en prête un à Jacques. Alors, il y en a un qui est quand même pas mal, c'est étonnant que vous ne l'ayez pas évoqué, mais ça prête à débat peut-être. C'est le Conseil d'État. C'est le Conseil d'État qui vient de rappeler à l'ARCOM que c'est une institution qui est là pour contrôler ce qu'on nous vend matin, midi et soir sur les ondes.
Notamment ce que nous vend Monsieur Bolloré.
Et justement, le Conseil d'État indique à l'ARCOM que peut-être au-delà du comptage des invités politiques dans les émissions spécialisées, le comptage des heures, l'équilibre et la nature du fonctionnement d'une chaîne télévisuelle, ça va au-delà de ça. Autrement dit, le Conseil d'État est en train de dire à l'ARCOM, le CNews que vous traitez comme une chaîne qui est une chaîne d'information est en fait une chaîne d'opinion et qu'à partir de là, il va falloir que vous la contrôliez davantage. Alors, bien entendu, quand on légifère et qu'on contrôle, c'est toujours un petit peu compliqué, mais je pense que c'est quand même extrêmement salubre pour notre intellect collectif.
Bolloré doit avoir l'habitude de provisionner des paquets d'amendes, il peut se le permettre.
Là, ça va devenir un peu plus compliqué, certes, mais je lui fais confiance pour s'en sortir. Voilà.
Et la deuxième,
elle est un peu plus anecdotique, c'est que la stupidité qui voulait que les bouquinistes des quais de la Seine soient virés de là, parce qu'il faudrait faire la place au musculaire, et ben ça va pas avoir lieu. Alors, c'est vrai que c'est un peu symbolique, mais quand même, je trouve que ça va un petit peu mieux. Alors, resterait à voir quels sont les arcanes de la prise de décision. Toujours est-il, quoi qu'il en soit, que je trouve que ça va, disons que ça va moins mal, quoi.
Je remarque que dans nos « ça va mieux », nous avons réduit nos prétentions et nous savons nous contenter de peu, de plus en plus, même de très peu.
C'est la sagesse,
peut-être, ou alors la démission, je ne sais plus. Dernière rubrique, le conseil culturel. Alors pour moi, tiens, trois livres très rapidement. Démocratie, ZAD, de Zone à défendre de Jean-François Boutors aux éditions de l'Aube en 2023. Un livre qui est bref, mais qui revient avec pédagogie sur les fondamentaux de la démocratie et qui analyse ce qui les menace. Donc, il doit rejoindre vraisemblablement, je ne l'ai pas lu, le discours de Laure Ortiz. Un autre livre, L'Amérique en colère de Luke, excusez l'accent, Mogelsod, Taillandier, c'était en 2023 aussi. C'est un journaliste, Mogelsod, qui a réuni des reportages qui éclairent l'épisode de l'invasion du Capitole le 6 janvier 2021 et qui est tout à fait symptomatique d'une montée de l'extrémisme qui, il faut bien le noter, est loin d'être enrayée. Et après, un dernier livre que je suis en train de lire avec beaucoup de plaisir, ça s'appelle « La révolution obligée », terme que j'ai employé tout à l'heure, ce qui est sous-titré « Réussir la transformation écologique sans dépendre de la Chine et des États-Unis ». C'est chez Alary Éditions, c'est écrit par David Jez, un garçon jeune mais qui me semble bien formé, avec un QI au-dessus de la moyenne, et Xavier Desjardins, qui doit certainement avoir le même, je ne l'ai jamais entendu. Et donc dans ce livre, eh bien, globalement, nous dit « la transformation écologique n'a pas commencé, pourquoi tant de discours pour si peu de résultats ?» Et il nous dit « regardez ce qui se passe en Chine et aux États-Unis qui ont déjà entamé, amorcé un tournant industriel spectaculaire qui s'impose aujourd'hui en champion de l'économie verte et qui organise à travers ça notre dépendance. » Alors la France et l'Europe, elles, qu'est-ce qu'elles font ? Ben, pour l'instant, elles multiplient les ambitions, elles multiplient les normes environnemental et on se prend un retour de bâton populiste et anti-écologique. Le livre est tout à fait passionnant et je le dévore et j'espère que vous le dévorerez aussi. Franchement, il en vaut la peine. Jean-François ?
Oui, deux films. Alors, il y en a un que j'ai déjà signalé, mais allez le voir quand même, parce qu'il est encore, à l'affiche pour le moment, je pense. C'est Moi, capitaine, l'aventure des deux jeunes Sénégalais qui traversent l'Afrique pour traverser la Méditerranée. Il y a un happy end, ça fait du bien à la fin, mais quand on connaît l'histoire réelle des gens, c'est un film vraiment à voir de Matteo Garrone, vous savez, celui qui a fait Gomorra. Hein. Et puis un deuxième film qui s'appelle, toujours sur le même sujet, mais vu du côté français, ça s'appelle Ma France à moi, avec Fanny Ardant, vous voyez. Alors là, pour le coup, on n'est pas dans le film à petit public, hein. C'est de Benoît Cohen, Ma France à moi. Ça parle de l'accueil, de ce qu'organisent certains de nos concitoyennes et concitoyens pour les migrants dans notre pays. Tout le monde ne vote pas au Rassemblement national, tout le monde n'est pas d'accord pour que le droit du sol soit massacré à Mayotte. Ça fait plaisir.
Mmh. Dieu merci. Jean-Luc Paléodi.
Oui, rapidement, je vous conseille, une fois n'est pas coutume, mais une BD, une bande dessinée.
Ah, il y en a d'excellentes.
S'appelle La Distinction. C'est une BD librement inspirée d'un livre de Pierre Bourdieu.
Ah oui.
Et je trouve que et le graphisme et le contenu et l'adaptation sont des sujets tout à fait d'actualité et très accessibles. On parle de pédagogie pour progresser dans notre goût d'aimer notre future belle démocratie.
Allez, le dernier mot pour Laure Ortiz.
Oui, moi je peux conseiller aussi des ouvrages d'une petite collection très précieuse qui est Anna Moza, Les mots. C'est des tout petits bouquins qui sont très vite lus mais qui font un point dans l'actualité des sciences sociales remarquable sur des questions qui font débat au niveau national. Il y en a deux qui sont parus là. L'un c'est Laïcité, le mot. C'est Stéphanie Hennette Vaucher. Très précieux, magnifique synthèse, des dérives aussi de la laïcité chez nous. Le deuxième, c'est Karine Parot qui en est l'auteur, c'est Étranger. Et là aussi, très belle analyse sur l'évolution, voilà. Et puis, pour changer, un bouquin remarquable qui a été primé d'une femme d'origine iranienne qui s'appelle Shora Makaremi, et c'est « Femme, vie, liberté ». Elle a eu un prix pour ça. Et je signale aussi un petit bouquin, vraiment, moi, qui m'a collé les larmes aux yeux et qui m'a fait regarder le 7 octobre sous un autre regard. Ça s'appelle « Le cahier d'Aziz ». C'est le témoignage de son grand-père qui raconte comment ses deux filles, dont la mère de Shora, ont été assassinées par le régime iranien des Mollahs. Et franchement, quand on se dit que ce sont ces gens-là qui sont éventuellement derrière le Hamas, ça fait encore plus froid.
Merci Laure Ortiz, merci d'avoir passé cette heure avec nous. Merci à Jean-Luc Paléodi.
Merci à Jacques Laverne.
Oui, et merci à Jean-François Millon. Nous nous autocongratulons, c'est parfait.
Ah ouais, ben, sur le tal des autres.
Absolument, c'était Ça va mieux, une émission de Jean-François Mignard donc, et de Jacques Laverne. Avec au bouton Léo Touroult, merci Léo. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que tous les autres sur le site d'Esprit Occitanie. À bientôt pour une nouvelle édition de Ça va mieux. Merci de votre fidélité. Belle journée, belle soirée à toutes et à tous.